BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, bonnes vacances aussi à vous qui en profitez peut-être, vous avez bien raison. Eh bien écoutez, De quoi je me mêle joue les prolongations, on est encore là ce week-end, on sera là le week-end prochain, mais après promis, on s'arrête un petit peu quand même pour revenir à la rentrée. De quoi je me mêle donc, vous le savez, toute l'actu tech tous les week-ends sur BFM Business, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, et puis sur la chaîne Tech & Co que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs, en audio, en vidéo, vous faites comme vous voulez. Avec pour cette semaine, tout à l'heure, on va revenir en 2016. Rappelez-vous, l'été 2016 était un été un peu bizarre. On était tous sur notre téléphone en train d'essayer d'attraper des Pokémon avec l'appli Pokémon Go. C'était le début de la réalité augmentée. Christophe Joly va nous raconter cette histoire incroyable et revenir donc à la genèse de cette appli qui avait marqué quand même l'été 2016 et les mois qui suivent. Merci de nous suivre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour réagir à tout ce qu'on raconte. C'est parti pour De quoi je me mêle et bienvenue. Et pour débuter le club de la presse IT, bien sûr, avec cette semaine, Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Bonjour François.
Très belle robe rouge en plus, superbe, magnifique.
C'est l'été ou pas?
C'est l'été. En plus ça va bien avec le bleu clair de De quoi je me mêle. Et puis en face, c'est Anthony Morel qui n'est pas mal non plus avec son petit t-shirt Goldorak.
Ouais. Quand et ma veste bleue.
Et ta veste
on est bleu, blanc, rouge là.
Exactement.
C'est pour préparer ça.
On est bien.
Pour préparer le 14 juillet.
Voilà, bon, on est parfait.
Évidemment.
On est vraiment bien.
Un t-shirt Goldorak, je note, qui a été fait par un de nos auditeurs. Voilà.
Ça c'est top.
Magnifique t-shirt.
C'est incroyable, il fait des compositions. Alors comme je suis un très mauvais élève, je n'ai pas noté son nom. Donc voilà, mais il fait des compositions extraordinaires sur tous les sujets pop, culture. Il m'en a fait un autre avec Naruto, vraiment géniaux. Des petites compositions assez bien fichues.
On a des auditeurs incroyables.
Ouais, nos auditeurs ont du talent.
Nos auditeurs ont du talent, c'est top. Alors, l'actualité du moment, elle est plutôt riche parce que entre Elon Musk qui lance une nouvelle société, entreprise d'intelligence artificielle où on ne comprend pas grand-chose en fait, on ne sait pas trop ce qui va se tramer, et puis l'arrivée de Bard, vous savez, l'intelligence artificielle générative de Google, on a pas mal de trucs à vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Mélinda, tu as pu rencontrer le papa de Bard, en quelque sorte.
Jacques Krasik.
Voilà, Jacques Krasik. Tu as eu un entretien quasi exclusif avec lui pour qu'il t'explique un petit peu quelle est la genèse de Bard et à quoi ça va servir. Et puis après, Anthony nous dira un petit peu, parce que j'imagine que tu l'as testé.
Je l'ai testé. Alors,
enregistre cette émission le jeudi.
C'est
ça. Donc, c'est arrivé ce matin.
Oui, absolument. Donc, j'ai eu un peu plus d'une heure pour le tester. Donc là, je lui ai donné tout un tas de requêtes, etc. Mais je me suis bien amusé avec. Donc, c'est assez génial déjà d'avoir un concurrent de ChatGPT et de pouvoir l'utiliser de manière totalement gratuite, avec une interface, c'est Google, donc ils sont quand même assez forts, c'est très naturel, c'est très pratique d'utilisation. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est cool. Mais je suis assez curieux aussi d'entendre les arguments mis en avant.
Linda, on est d'accord que c'est la réponse de Google à OpenAI.
Alors oui, c'est un peu des dossiers qui sont montés en parallèle. Ils ont un peu accéléré dessus. On sait que Google travaille depuis des années sur l'IA, c'est un peu leur moteur depuis très longtemps. Donc ce robot, il allait arriver. D'ailleurs, Jacques Krasik était derrière Google Assistant. Donc on voit un peu les passerelles assez évidentes pour développer Bard. Donc là, l'information, c'est que Google Bard arrive en Europe. Ce qui était, ça a été annoncé au mois de février, Bard, souvenez-vous, c'est lancé depuis le mois de mai partout, sauf dans l'Union européenne, parce qu'évidemment, on a quelques contraintes sur les utilisations, sur les données. Donc ils avaient ça à gérer. Ils sont arrivés finalement un peu plus vite qu'on pensait au bout du processus. Comme il explique, il fallait surtout rassurer les régulateurs. Alors, c'est très drôle parce qu'il a un argumentaire qui rappelle tout le temps, c'est donner le choix, le contrôle et la transparence. C'est vraiment les trois arguments que lui veut donner à Bard pour expliquer, soyez rassurés, on ne va rien faire de mal de vos données. D'ailleurs, c'est vrai que tu as dû le voir, quand on commence à aller sur Bard, tout de suite, on vous dit, attention, vous savez, on peut regarder... Tout est extrêmement bien expliqué.
On demande ton accord.
On demande ton accord pour absolument tout. Enfin voilà, on sent qu'ils mettent des garde-fous absolument partout pour se voir rien reprocher. Il y a quand même des reproches.
Ils veulent surtout pas franchir la ligne jaune.
C'est ça.
Parce que OpenAI a parfois franchi quoi. Alors, donc
on a vu le nombre d'entreprises qui se sont retrouvées dans la panade parce que leurs données étaient réutilisées. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit dans ChatGPT. Bon, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on écrit dans Bard aussi de toute
Bard
façon.
Bard est connecté directement. La grosse différence entre Bard et ChatGPT, c'est que Bard est connecté directement à Google, donc à des milliards et des milliards de données.
Ça
va beaucoup plus vite pour ça. Eux, c'est ce qu'ils avancent d'ailleurs comme argument. on est un peu plus dans l'actualité que ChatGPT qui a besoin d'être nourri d'informations. Eux, c'est vrai que bah, l'information, ils l'ont sous la main. Il faut juste bien connecter. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, Jacques Razik, on avait déjà discuté au moment de à Google I.O., au moment du lancement un peu plus officiel de Bard. Voilà, ils étaient un peu, sur la défensive, on va dire, parce que ça arrivait. Ils avaient entendu tout ce qui était dit sur ChatGPT, sur Bing AI. Ouais,
et puis, ils ont eu des mauvaises expériences au début, non?
La démo, ça a été un carnage. En gros, c'était dans le lancement, tu avais une question qui était posée voilà, à Bard. C'était,
surtout le télescope James
Webb, qui avait été le premier télescope à prendre une photo d'une exoplanète, ce qui était faux.
Ce qui n'était pas vrai.
Et donc, ça la fout mal. Dans une démo, tu te dis quand même, il y a 2-3 mecs qui doivent vérifier au moins les résultats sur l'élément de démonstration. Visiblement, ça n'avait pas été fait.
Comme quoi, c'était vraiment une démonstration en temps réel. Il n'y avait rien de préparé. C'était pas... Donc là, il vient à Paris donc, nous expliquer que ça arrive donc, aujourd'hui, la journée où on enregistre.
C'est cool qu'il vienne à Paris déjà. Alors, petite parenthèse, il fait le tour des popotes de tous les pays
Je pense qu'ils ont réglé surtout dernier détail avec l'Europe. Et donc, il en a profité après pour aller dans les pays un peu phares. Donc, l'Allemagne, l'Italie, la France, pour parler. Donc, c'est vrai que nous, on a pu s'entretenir. Vous pouvez retrouver sur le site. On a l'interview, on est interview en vidéo et à l'écrit. Et alors, il est, comment dire, Google, c'est une boîte d'ingénieurs. Donc, ils sont tous très focus sur la technologie, la technique. Et lui, il a un côté un peu éthéré. C'est-à-dire qu'il parle philosophiquement, en fait, de Bard, sur ce que ça doit être. Donc, il parle d'un imaginaire augmenté. Il est très axé sur l'imagination. Il n'a pas arrêté de me dire, non, mais le cerveau humain reste l'ordinateur le plus puissant. Ça ne peut pas remplacer Bard, ChatGPT, tout ça. Ne peut pas remplacer le cerveau. Parce que ça doit être, en fait, votre aide. C'est un accompagnateur.
C'est un outil.
C'est un outil qui doit aider à mettre en avant votre imagination. Il est extrêmement... Les mots importants chez lui, c'est transparence et imagination.
Ouais, enfin, il dit ça pour pas faire peur non plus.
Non,
tu vois, c'est un peu de la com aussi, je pense, dans leur discours.
Non, parce que ça se sent. Lui, il s'en sert. Il explique que maintenant, il est complètement accro à son truc. Bon, ça, tant mieux pour lui.
Il dit non, je m'en sers pas.
Non,
par contre, ChatGPT, très bien.
Ah, ChatGPT,
souviens-toi que
je l'ai sur mon iPhone. Ah, zut, c'est un pixel, pardon.
Souviens-toi que chez Meta, tout le monde ne se sert pas
du métavers.
Oui, c'est vrai.
Non, mais on sent qu'il a un rapport vraiment très philosophique à sa création. C'est vraiment pour lui. Alors, il a visiblement une vie de famille hein, quand même à côté, mais il voit ça vraiment comme une aide. C'est pas un outil de remplacement. Nous, on entend tout le temps, oui, c'est bien, ça va écrire les articles à place des journalistes, ça va faire les voix au doublage. Alors lui, il explique que pas du tout. S'il n'y a pas un humain derrière, en fait, ce qui est vrai, s'il n'y a pas d'humain. En fait, ça n'a aucun intérêt qui va être créé.
Melinda, à quoi ça sert, Bard ? Parce que, est-ce que c'est comme ChatGPT ? C'est de l'intelligence artificielle, donc générative. Tu peux lui poser n'importe quelle question, il va te répondre. Tu peux lui donner des tâches à faire. C'est pareil, c'est exactement ChatGPT.
Ah oui, ça, c'est les mêmes fonctions. Enfin, c'est l'utilisation.
Sauf que c'est connecté à Google.
Voilà.
Donc on imagine la puissance du truc.
Comme GPT-4 aussi.
Il est connecté à Google, je crois, GPT-4.
Il est plus nourri. Il est plus connecté à Internet, mais il n'aura pas
plus
la.
C'est à Bing, non ?
Il n'aura pas la.
Non, Bing. Enfin,
oui, pas à Google, mais il est connecté à Internet.
Il est connecté à Internet. Google, Bard, sa force, c'est de récupérer toutes les données de Google, soyons clairs. Il peut tout faire. Alors, il m'a raconté une histoire qui est rigolote. C'est que, donc, lui s'en sert, les gens autour de lui étaient au courant. Aux États-Unis, ils l'ont depuis donc 2 mois. Et en fait, il s'est aperçu qu'il discutait avec son plombier qui s'en sert. Alors là, on se dit, pourquoi est-ce qu'un plombier se servirait de Bard ? Ça n'a aucun sens. Et en fait, il se sert de la fonction pour expliquer aux gens. Il dit, parce que son plombier, il arrive, il va vous dire, voilà, merci, vous avez une fuite, ça fait 500 euros. Il dit qu'en fait, il s'est servi de Bard pour apprendre à parler aux gens, pas à les rassurer, mais à leur expliquer sans détails techniques, de manière un peu plus empathique, qu'ils allaient douiller beaucoup, beaucoup. Et donc, il dit, il ne s'attendait pas du tout à des usages comme ça, parce que Bard, en fait, permet d'avoir des tons, d'avoir des tons différents.
Je me sers exactement de cette fonctionnalité-là, moi. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, quand j'écris un papier ou une chronique, et que tu parles d'un truc, je ne sais pas, un effet de quelque chose de scientifique qui est parfois assez complexe.
Ouais.
Et pour vulgariser.
Explique-moi comme si j'étais un enfant de 10 ans. Et souvent, c'est hyper bien fait. Là, j'ai l'exemple en tête parce que je l'ai fait il y a encore 2 ou 3 jours où je parlais de l'effet Peltier pour fabriquer du froid, pour générer du froid, ce qui est un principe physique.
Il faut réfléchir pour essayer d'expliquer ça.
Je lui ai demandé, alors je ne te dis pas, je n'ai pas copié-collé sa réponse, mais si tu veux, ça te donne même à toi, si tu veux, les éléments. Ok, ça fonctionne comme ça. Et donc, tu vas pouvoir aussi l'expliquer derrière aux gens. Donc,
tu l'as fait avec ChatGPT.
Je l'ai fait avec ChatGPT, mais ce sera exactement la même chose avec Bard, évidemment.
Bard, c'est pareil. Alors, pour le moment, je crois que cette fonction, elle est en anglais. La possibilité de donner une tonalité en fait à son texte, de choisir un peu.
Ah oui, d'accord. Donc c'était drôle. C'est pas aussi sophistiqué que ChatGPT.
Bah, ChatGPT le fait en français, ça
Ouais, je crois.
Il le fait en français.
Ouais. ChatGPT fait tout en français.
Ah oui, il fait tout en français.
Là, ils ont déployé tout en français. Il y a les trois quarts des fonctions qui sont déjà disponibles en français.
Hein. Tu as y compris de l'analyse d'image d'ailleurs. Hein,
ouais,
sur GPT-4, ça c'est important de le dire parce que c'est aussi l'une des valeurs ajoutées par rapport à la première version de ChatGPT, c'est le fait de pouvoir analyser non pas seulement du texte mais aussi de l'image. L'exemple qu'il donnait, mais on peut en imaginer plein d'autres, c'est tu lui montres une étiquette d'une bouteille de vin, il va te dire avec quel plat tu vas pouvoir la servir, ce genre de choses.
Mais en fait c'est Google Lens. Ils se servent de Google Lens.
Mais c'est plusieurs briques technologiques qui existent déjà.
C'est l'avantage de Google aussi par rapport à ChatGPT où ça va aller très très vite, c'est qu'ils ont tellement d'outils quand ils vont vraiment se mettre à tout rassembler. Moi je lui demandais, je lui dis mais en fait l'avenir évident, c'est que ça remplace Google Assistant dans les objets connectés. Alors pour le moment, Bard n'est pas capable de comprendre une requête verbale. Ouais. Donc il peut les nouvelles fonctions qui arrivent, il peut lire lui ce qu'il vous raconte, mais il ne peut pas encore comprendre. Le jour où il comprend, tous les objets connectés,
on va pouvoir l'intégrer, je ne sais pas s'il en a parlé de ça, mais de la même manière que Microsoft a intégré ChatGPT dans toute la suite logicielle de Microsoft, j'imagine que pour Google Docs, ça va être exactement la même chose et qu'on va pouvoir avoir du Bard dans tous les le traitement de texte, le tableur, le PowerPoint, l'équivalent de PowerPoint.
On l'avait vu à Google I.O., ils avaient commencé à en parler, ça va être déployé d'ici la fin de l'année. Alors c'est déployé évidemment pour les Google Workplace d'abord, donc les entreprises, ça arrive dans Gmail. On va pouvoir, en gros, avoir un suivi de mail. C'est vraiment un secrétaire, quoi, un assistant qui va vous prendre vos mails, vous dire « Ah, attention, là, il y a un mail avec 10 réponses, vous avez oublié d'y répondre. Voilà ce que les autres ont dit. »
Et de la même manière que ChatGPT, on le voit, la force de ChatGPT, c'est le prompt. C'est la manière dont tu poses la question et dont tu exposes ton problème pour que GPT-4 ou 3.5 comprennent vraiment ce que tu veux pour te répondre le plus correctement possible. C'est pareil pour Bard.
Ah oui, c'est la clé. C'est pour ça que tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut toujours un humain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des différences de gain de productivité d'une personne à l'autre en fonction des prompts que tu donnes et de la capacité de l'humain à donner le bon prompt pour obtenir la bonne réponse en fait.
La façon dont tu le nourris,
c'est extrêmement important. Ouais.
C'est là où je te dis qu'il a quelque chose de très philosophique qui est marrant parce que c'est en décalage, mais c'est vraiment ça. Il t'explique que si toi derrière tu n'es pas capable de t'en servir correctement, en fait Bard va être bon si les gens sont bons. Si tu as une idée, il dit c'est votre idée. La résolution d'un problème que vous cherchez, en fait, c'est là où il accompagne et il amplifie l'imagination, l'imaginaire.
C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que si tu le stimules, il sera encore meilleur.
Mais bien sûr.
Parce que c'est
intéressant.
La plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme Google. Remarque, je te dis ça, mais on le faisait juste avant le début de l'émission. J'étais en train de lui demander est-ce que tu sais qui est François Sorel ? Ce qui est débile, parce que franchement, c'est pas vrai. tu peux demander la même chose à Google et il te répond, en fait. C'est pas ça la valeur ajoutée,
non, comme
celui-ci. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'un point de vue stratégique, je trouve intéressant aussi le fait que Google. Et fait une séparation très nette entre Bard et le moteur de recherche. Ils ne l'ont pas intégré à la page du moteur de recherche. Peut-être que ça arrivera à un moment.
Non, on peut faire. Alors voilà, on voit, pour ceux qui ont l'image, on voit ce bouton Google It. En fait, alors moi, je trouve que c'est aussi un moyen de, pas de se dédouaner, mais de se protéger. C'est-à-dire que vous faites des recherches. Bard vous donne toute une série de réponses avec des éléments, des informations. Voilà, si on cherche sur un sujet, il va donner des réponses. Et en fait, ce bouton Google It, c'est pour aller plus loin. Et ça rebascule sur le moteur de recherche avec des sources qui doivent être, en fait, en gros, à mon avis, les sources de l'article. Mais par rapport à Bing, on n'a pas les sources quand on fait une recherche sur Bard. On ne sait pas d'où il tient ces informations. Il les sort comme ça. En fait, ce bouton Google It, c'est un peu ça. C'est aller regarder là-bas, on s'est inspiré de ça. Il y a un peu plus d'infos. Donc, c'est aussi un moyen de se protéger. Ouais. Et en effet, ce n'est pas dans Google, mais on sait que dans Search, ils veulent le mettre. De toute façon, Bard va être partout.
La force de Bard, finalement, après, il faut voir si la qualité des réponses est aussi fine que ChatGPT, c'est que c'est connecté donc à Google, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on est dans l'actualité.
Hein, oui.
Et demain, lorsqu'on pourra... moi, je fantasme en me disant, demain, tu lui dis, prépare-moi un week-end à Barcelone pour deux personnes, on part de telle date à telle date, trouve-moi l'avion, l'hôtel et les trucs à faire. Il va créer ton voyage.
Moi, je l'ai fait avec GPT, ça.
Tu le fais
déjà ?
Ah bah,
ouais, il te commande.
C'est intégré à...
Non, il ne te commande pas, par contre. Non, voilà. C'est ça le truc. T'as raison, c'est parce que demain, t'as raison, c'est toute la clé.
Parce que demain, dans Google, étant donné que ça existe déjà dans Google, les résultats Google, tu as déjà le prix des billets, etc., je suis sûr que la prochaine
étape... Là, ils donnent les prix, mais t'as raison. L'étape d'après, l'étape importante, ce serait d'intégrer ça, je sais pas moi, qui s'allie avec Expedia ou Podo ou des boîtes comme ça.
Bien sûr.
Et qu'en gros, une fois que ChatGPT ou Bard t'a fait ton petit package vacances, tu dises valider. Il te réserve tout, allez, c'est parti, c'est parti.
Et puis voilà, c'est réglé.
Extraordinaire.
Mais ça va arriver. Mais
les garçons, ça arrive et ça existe déjà à moitié. En fait, Expedia et Booking ont intégré ChatGPT dans leur moteur de recherche de vacances. Et ça arrive en fait.
Mais il faut que tu utilises Expedia, faut que t'ailles. C'est pas via une recherche
mais,
sur
mais en fait,
ChatGPT,
en gros,
tu veux.
C'est, ils sont en train de développer ça chacun de leur côté. C'est-à-dire, je crois que c'est aux États-Unis, c'est déjà disponible, de dire, ben voilà, je pars, je ne sais pas, en Espagne, du 1er au 5, je veux faire Madrid et Barcelone, qu'est-ce que tu me proposes ? J'ai tant de budget, tac, 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 tu sors. Là, sur Bard, je l'ai fait. J'ai dit, voilà, je veux partir 10 jours aux États-Unis, côte ouest. Dis-moi les choses importantes à faire entre telle ville et telle ville. Et là, il m'a sorti.
Il t'a sorti tout le parcours.
Ouais, ça, c'est le next step, il est évident, c'est dans Google Maps, voilà. Je vais te faire ton tracé.
On vous a loué telle voiture, on peut vous louer telle voiture à tel prix, etc. Les hôtels, les itinéraires, etc.
Mais Google Maps, c'est déjà le faire sans Bard.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire qu'il est capable de vous donner des étapes.
C'est simplement une connexion à faire.
Évidemment. Une fois qu'ils auront tout plugué, ça va être monstrueux.
C'est ça qui est hyper important, en fait. Parce que beaucoup de gens... Non, c'est vrai, il y a eu un côté effet surprise au lancement de ChatGPT. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu lassés en se disant « Bon, bah voilà, c'est rigolo, je me suis amusé avec le chatbot. » Mais en fait, ça va tellement au-delà de ça.
Ça fait un peu penser aux assistants vocaux. Au début, tous étaient un peu fous parce qu'on disait « Voilà, quelle heure il est, allume une lumière et tout. » Et puis après, tu t'en sers moins parce que tu épuises les usages intelligents et intéressants.
Mais je pense que du coup c'était un ratage pour ça, les assistants vocaux, de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas réussi à aller au-delà. Amazon, par exemple, avait des ambitions beaucoup plus vastes que ça. Intégrer des fonctionnalités liées à la santé, analyser ta voix pour te dire.
Mais là,
pour le coup, on peut aller très loin.
Mais Bard connecté à Google Home et à ton assistant vocal, ça va être terrifiant. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans ta cuisine. Non, enfin, terrifiant, j'exagère. Ouais. Mais c'est vrai que tu vas dans ta cuisine, tu vas pouvoir préparer ton voyage en deux phrases, finalement.
Tu vois, par exemple, là, ils me font une démo en français. Quand j'étais là chez Google, ils me font des mots. Quelle est la bonne routine pour s'endormir ? Et donc là, Bard te sort tout un truc, baisser la température, blablabla. Je dis, attendez, vous imaginez ça, relié à ton Google Home, relié à tous tes objets connectés que tu peux avoir dans ta chambre, les éclairages, la température. Et là, Bard, il va me dire, non mais dans votre chambre, il fait beaucoup trop chaud, si vous baissez de 2 degrés, ça ira mieux. Et puis, j'ai noté, en suivant votre cycle de sommeil, que vers 4-5 heures, vous aviez tendance à avoir un sommeil plus léger, faites ci, faites ça. On va vers ça, en fait. Ouais. On parle quand même d'un outil, globalement, qui est quand même moins d'un an de vie. Bard, c'est à 3 mois. Ouais. On voit où on en est déjà, ChatGPT et Bard. C'est dingue.
Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est gratuit.
Ouais.
GPT-4 est payant.
Absolument.
Donc, ça va être intéressant de voir aussi comment Google va gagner des parts de marché sur ce truc-là, comment ils vont le monétiser, parce que c'est encore un grand secret. Enfin, franchement, on ne voit pas.
Auprès des entreprises.
Auprès des entreprises.
Ouais, quand ça va être injecté, c'est avec des API, des choses comme ça qui vont le monétiser, dans les entreprises qui vont le mettre dans des services et des choses.
Mais ça peut, est-ce que ce sera suffisant?
Enfin,
tu vois, Google, le truc, c'est que la différence avec Microsoft, c'est que Google, vraiment, la recherche, c'est leur cœur de métier. Et donc, ils ont besoin de générer beaucoup, beaucoup de cash avec ça. S'ils n'arrivent pas à le monétiser auprès des utilisateurs, pour moi, il va y avoir quand même un souci. D'autant que les recherches, quand tu fais une recherche sur Bard ou sur ChatGPT, ça leur coûte beaucoup, beaucoup plus cher que quand tu fais une recherche traditionnelle sur Google. Parce que là, ça mouline, ça y va. J'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'était 10 fois plus cher.
C'est pour ça que le commerce va fatalement arriver sur Bard, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça sera le voyage, ça sera peut-être, je sais pas moi, trouve-moi une télé 55 pouces au meilleur rapport qualité-prix du moment, etc. Il va te sortir des trucs. Et quand tu paieras, là, Google, il y aura un lien d'affiliation, comme d'habitude. Je pense que c'est vers ça, c'est la direction dans laquelle on va.
On a vu les démos, ça, Google I.O. Ils nous ont montré justement sur le search. En gros, toi, tu fais ta petite recherche et tu dis, il fait très chaud, j'ai besoin d'un climatiseur pour une pièce de 50 mètres carrés, mais j'habite là, je ne voudrais pas aller le chercher à plus de 2 km. Il nous sortait.
C'est terrible.
Là, on avait tout et on avait sur le Google, un équivalent.
Mais ça, quand
Google
ça va arriver dans la voiture avec la voix, ça va être terrible.
C'est terrible.
Ouais. Non, mais,
enfin, je veux dire, trouve-moi un restaurant qui est à 500 génial. Mètres où je peux manger des burgers avec une note de plus de 4,5.
Ouais, c'est ah, mais ça.
Tu vois, et tu vas te retrouver avec un truc.
Mais dans l'absolu.
Et là, il va analyser tes données de santé, il va dire oui, mais.
Avec
votre cholestérol,
vaut mieux que tu ailles prendre. Vaut mieux que tu ailles prendre un truc
vegan. Il y a un resto vegan juste à côté. Donc c'est beaucoup mieux.
Mais dans l'absolu, on a déjà toutes ces infos à portée de main.
Mais oui, c'est la formalisation.
Non, mais c'est l'interface.
C'est la mise en forme.
C'est l'interface.
Et dans ta voiture qui est dans ta voiture autonome, tu seras bien aussi pour le dire. Allez, emmène-moi au restaurant, j'ai autre chose à faire, là, il faut que je regarde, il faut que je travaille dans ma voiture. Hop.
Non, mais c'est
fascinant. Tout problème,
ça est fascinant.
François, je t'emmène.
Tout ça est fascinant.
Ah, mais c'est génial.
Et on va voir un petit peu où ça nous mène. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que y a une vraie concurrence maintenant à ChatGPT. Ouais. Et on va voir comment les deux s'en sortent.
Non, c'est Elon Musk, du coup.
Oui, alors justement, belle transition. Parce que l'autre actualité de ces dernières heures, c'est la communication un peu toujours évasive et surprenante d'Elon Musk, qui, avec un tweet, dit que ça y est, je lance mon entreprise. Alors, c'était quoi son terme ? C'est un terme un peu bizarre de...
C'est quoi, le nom de l'entreprise ?
Oui, alors non, c'est XAI.
Mais elle est non woke, surtout.
Ah oui, c'est ça. Non, il dit, alors, c'est une entreprise qui va nous aider à comprendre la vraie nature de l'univers.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une entreprise qui...
En toute modestie.
Non, mais et surtout, c'est incompréhensible, ce truc-là.
C'est incompréhensible.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est Elon Musk.
Alors, peut-être que vous qui nous écoutez, comme encore une fois, il y a un décalage là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un tweet et le site de l'entreprise est maintenant public. Donc, tu as une page internet qui te dit, XAI, on veut vous aider à mieux comprendre la vraie nature de l'univers. Un appel à candidature. Il nous montre aussi avec qui il a créé cette entreprise. Donc, c'est que des pontes de l'intelligence artificielle, que des mecs qui sont passés par Google, DeepMind, OpenAI.
Ça, on ne peut pas lui enlever. Hein. Ah non, toujours la crème de la crème.
Top level. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Après, le truc, c'est qu'il doit donner tous les détails. Donc, vendredi, donc demain soir pour nous, vendredi soir, dans un space sur Twitter où il devrait en dévoiler un petit peu plus. Ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'il a déjà tweeté auparavant, c'est qu'il va nous sortir en fait une sorte de concurrent de ChatGPT, oui. Il va nous sortir son IA, t'as raison, non woke, puisqu'on sait que c'est une IA qui est un peu trop gauchiste à son goût, qui est un peu trop aussi inféodée à Microsoft. On sait que, faut rappeler que Musk, c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI, mais qu'il est sorti du projet OpenAI sur des désaccords de fond.
Il était financier, il avait financé, il était dans les investisseurs.
Absolument.
Fondateurs investisseurs.
Et maintenant, avec Sam Friedman, ça se chamaille un petit peu, quoi. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il a à proposer. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est encore une fois Elon Musk, mais le roublard que c'est, mais il est incroyable, quoi. Parce que vous vous souvenez quand même qu'il y a 3 mois, il nous bassinait pour dire non, mais l'IA, faut arrêter tout, les gars, c'est trop dangereux. C'est lettre ouverte signée avec 1000 personnalités de l'intelligence artificielle pour dire pendant 6 mois, les gars, on fait un moratoire, c'est trop dangereux, vraiment, on s'arrête. Et on sait maintenant que cette entreprise, il l'avait déjà enregistré dans l'état du Nevada au moment où il signe la lettre, qu'il était en train d'acheter des milliers de GPU, de processeurs, de processeurs graphiques qui sont les cerveaux de l'intelligence artificielle, au moment où il signe la lettre. Il se fout du monde.
Honnêtement, on l'avait vu venir. C'était gros comme une maison qu'il était en train de préparer la même chose et que son moratoire, c'était juste pour avoir le temps de rattraper justement OpenAI qui était en train de filer, Bing qui était en train de leur coller au basque.
Après, méfions-nous quand même d'Elon Musk. Je pense qu'il en a encore sous le pied. Qu'est-ce qu'il va faire de ce truc-là ? C'est la question. Est-ce que c'est, on va dire, une brique supplémentaire qui va s'accrocher, par exemple, à Neuralink, qui va s'accrocher à Twitter, sans doute ?
Alors, il dit que ce sera une entité séparée, mais qui travaillera étroitement avec Tesla et avec Twitter, notamment.
Rappelle-toi de ce robot humanoïde là, qui nous est rigolé.
Optimus.
Optimus.
La dernière version est un peu mieux.
Elle est un peu plus fluide,
mais imagine, tu connectes ce truc-là, le ChatGPT d'Elon Musk.
Toutes ces briques, finalement, ça a du sens en réalité.
Évidemment.
Quand on regarde, évidemment, tout ce que fait Elon Musk, les briques vont se connecter les unes avec les autres, et tu as raison. C'est-à-dire que si tout ça s'injecte à un moment dans le robot Optimus, ça nous promet des soirées assez flippantes.
C'est sûr qu'il ne pouvait pas passer à côté.
Non.
Enfin, quand on voit le bonhomme, déjà, tous les sujets du moment, il essaye de les embrasser. Là, c'est de l'intelligence artificielle. Il allait dessus. Après, il n'est pas improbable qu'on s'aperçoive que ChatGPT étant quand même OpenAI, étant quand même en open source, il y a une grosse base qui lui est permis d'accélérer aussi son IA. Après, est-ce qu'il va en faire la même chose ? Je ne suis pas sûre qu'il ait les mêmes velléités d'utilisation. Je suis d'accord. C'est vraiment pour trouver un lien entre toutes ces activités. Ouais. Il a besoin de ça pour la voiture, il a besoin de ça pour son robot.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que...
Mais autant, ce ne sera pas du niveau, à mon avis, de ChatGPT.
Autant ou, OpenAI et Google mettent des garde-fous en termes d'idéologie, de... voilà, enfin, tout ça est très bien bordé. Je pense que Elon Musk, lui, ça va être tout à fait l'inverse. Et si tu veux créer une bombe avec,
ouais, peut-être.
Alors, avec son X et I, je pense pas que...
Ouais, mais on pourrait dire à l'inverse. Moi, je prendrais un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, ouais. C'est-à-dire qu'en termes d'idéologie, en réalité, ChatGPT, alors Bard, il faudra tester, mais enfin, je serais pas étonné que ce soit un petit peu la même chose.
Oui, bien sûr.
Il y a une idéologie sous-jacente qui, effectivement, est plutôt de tendance à gauche.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
C'est, enfin, je veux dire, il y a 10 000 tests qui ont été réalisés et on se rend compte sur les réponses qu'ils donnent que voilà, ça a été créé avec des valeurs qui vont dans le sens du progressisme. Voilà, on peut dire c'est bien ou on peut dire c'est
non,
mal.
Non, mais il y a une couleur en tout cas.
Il y a une couleur. Donc, oui, est-ce que Elon Musk, est-ce qu'il va vouloir rééquilibrer la balance et donc avoir une IA entre guillemets de droite, ou est-ce que ça va être simplement en mode libertarien total, un peu comme sur Twitter, donc en mode foutraque, on laisse faire tout et n'importe quoi.
De l'IA,
free
ça promet
complètement. Non mais voilà, mais ça va être intéressant chaud, hein. Aussi. Ça va être intéressant à observer. Ouais. Mais moi je trouve que c'est pas, enfin c'est pour ça aussi. On disait c'est important qu'il y ait de la concurrence de toute façon sur ce secteur et on pouvait pas se contenter du fait qu'il y ait que ChatGPT. C'est très bien que tout le monde IA.
Joli.
Que tout le monde y aille. Donc que ce soit Google, on parle de Musk, mais il y a aussi des startups. On parle d'Anthropic, tu sais, il y a une startup qui a levé plus d'un milliard de dollars. Qui est absolument incroyable avec son modèle Claude. En France, on a Hugging Chat qui est en train de se monter. On a deux ou trois projets qui sont aussi très prometteurs et qui veulent le faire en français parce que c'est très important aussi. Il y a aussi du soft power derrière tout ça. Il faut qu'on ait des modèles en français qui apprennent en français, etc. Il y a de la concurrence qui se met en place, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur l'idéologie, sur la façon dont ces algorithmes sont conçus. C'est bien qu'on ait une offre assez large, et à la fin, c'est l'utilisateur final qui sera gagnant de tout ça. En vrai.
Alors, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas plus d'informations, mais il semblerait que le vendredi après-midi, donc après la mise en ligne de quoi je mail, il y aura des questions-réponses concernant cette nouvelle entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin à l'heure où on enregistre ce podcast.
On
en saura plus, sans doute, la semaine prochaine. Dans l'actu aussi, alors puisqu'on est toujours dans ce domaine de l'IA, etc., vous savez qu'on parle beaucoup de voitures autonomes, de robots, etc., etc. Ce qui est intéressant, Anthony, c'est que tu as évidemment creusé un peu le sujet, et on se retrouve avec des situations assez ubuesques où il y a des gens qui sont contre ces voitures autonomes et qui le font savoir.
Ah ben, à San Francisco, notamment, on a la révolte anti-voitures autonomes en ce moment, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que San Francisco, c'est vrai que la voiture autonome, chez nous, ça semble un truc un peu éthéré, un peu lointain, même si les réglementations sont en train de changer. Mais à San Francisco, c'est une réalité depuis plusieurs années, que ce soit Waymo ou Cruise. Donc Waymo, c'est Google, et Cruise, c'est General Motors. Il y a des robots taxis qui circulent, qu'on peut commander aujourd'hui, qui sont en phase de test depuis plusieurs années. Ça fonctionne. Sauf que là, depuis quelques jours, eh bien, on a un groupe de militants, d'activistes, qui s'amuse à paralyser les voitures autonomes en mettant des cônes de chantier sur le capot. Alors, ce qui est assez rigolo, entre parenthèses, c'est-à-dire que t'as vraiment des trucs qui sont dopés aux algorithmes les plus puissants du monde, mais tu mets un cône jaune et orange et blanc sur le capot et elle est morte. La voiture, elle peut plus bouger, elle est complètement immobilisée. Et donc, ils font ça visiblement pour protester contre l'extension possible de l'expérimentation dans San Francisco et en disant mais on en a ras-le-bol de ces voitures autonomes qui, alors elles ne créent pas des accidents à proprement parler parce qu'elles sont plutôt plus sûres en fait que des conducteurs humains. En revanche, des fois elles se comportent de manière complètement erratique, elles bloquent les transports d'urgence, elles se mettent sur les voies de bus, des fois elles se regroupent à des intersections, tu ne sais pas pourquoi, elles se mettent à bugger et s'arrêtent et bloquent toute la circulation. Et donc, il y a ce truc de... On croyait que c'était la machine qui allait se rebeller contre l'homme. Dans tous les bouquins de science-fiction, c'est ça. Mais en fait, c'est l'homme qui se révolte contre la machine, qui en a ras-le-bol. Alors là, c'est un exemple, et on va dire presque amusant, à San Francisco. Mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a, allez, 2 ou 3 ans, dans la ville de Chandler, en Arizona, qui est l'une des villes test pour Waymo, pour les voitures autonomes, c'est la police qui indiquait des dizaines de cas d'agression contre les voitures autonomes.
C'est incroyable.
C'est-à-dire de gens qui
incroyable.
Leur jettent des pierres, qui crèvent les pneus, qui leur font des queues de poisson, avec en fond, j'allais dire, toute une crainte tous les fantasmes autour de l'IA
qui va nous remplacer,
prendre nos emplois, etc. Et donc il y a une révolte finalement contre l'intelligence artificielle qui rappelle un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, le mouvement des ludites au 19e siècle, tu sais, qui étaient ces artisans qui cassaient les machines, les métiers à tisser parce que ça menaçait finalement leur existence et leur métier. Bah là, c'est un peu une résurgence de ces mouvements.
Ça me fait penser un peu, tu sais, à tout ce vandalisme qu'il y a concernant les opérateurs télécoms aussi. C'est-à-dire que Alors bon, là, il y a des considérations, on va dire, sanitaires qui sont même pas avérées, en fait, hein, parce que...
Il y a beaucoup de fantasmes, en fait.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui détruisent le progrès. Voilà, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer.
Ouais.
On se souvient aussi, tu te rappelles, de cette station Starlink qui devait arriver dans un village, je crois, de Breton. Et tout le monde s'est mis vent debout pour pas que ça arrive, alors qu'en fait, ça a apporté, je crois, beaucoup d'argent à la commune, parce que, évidemment, Elon Musk allait payer des taxes, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont contre, en fait, le progrès technologique. Est-ce que c'est bien ou pas ? On n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que bon,
craintes,
finalement...
Ouais. Après, non, mais...
Vas-y, je pense qu'à San Francisco, il y a un autre problème, actuellement, au-delà de la technologie des voitures.
Oui, je pense
c'est une ville qui est vraiment en crise depuis quelques années.
Bien sûr, avec beaucoup de homeless, beaucoup de pauvreté.
Il y a une explosion de la pauvreté dans San Francisco.
C'est impressionnant.
Il y a déjà eu des premiers dégâts, entre guillemets, faits par l'explosion de la Silicon Valley. Les loyers avaient explosé, les San Franciscains d'origine ont tous bougé. Et donc, ça fait quand même des années qu'ils ont...
Et le Covid a été le coup de massue.
Le centre-ville, il faut savoir que le premier problème qu'ils ont eu sur la circulation, c'est que toutes les rues sont en contresens. Donc, c'est un enfer pour circuler, que tous les magasins sont en train de fermer. Enfin, il se passe une révolte à San Francisco qui gronde, qui va au-delà. Et je pense que ça, c'est vraiment la première expression. Ils en ont marre, en fait.
Ils en ont vraiment marre.
Il y a eu d'autres exemples. D'ailleurs, on se souvient, c'était il y a 2 ou 3 ans, où justement, à cause de la gentrification, de l'explosion des prix des loyers, parce que, évidemment, tu as tous les cadres de la Silicon Valley qui vivent là. Tu as des mecs qui jetaient des cailloux sur les bus de transit qui allaient vers le siège d'Apple,
les
de Google, etc. Donc, tu as eu ça.
Ils ont eu les smart. Moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup à San Francisco. Pareil pour la gentrification. Eux, pour eux, le symbole extérieur, c'était les smart. C'est-à-dire, vous imaginez, vous voyez les smart de nos voitures, toutes petites. Aux États-Unis, c'est vrai que ça, c'est ridicule, le niveau format. Et donc, ils s'amusaient à les mettre debout. Donc dans la rue, dans toutes les rues de San Francisco, dès que vous croisiez une smart, elle était debout et en fait c'était un signe de rébellion contre cette gentrification. Donc
c'est
on avait plein de petites smart à la verticale.
Ah ouais, c'est les gilets jaunes de la Silicon Valley un peu quoi.
Bah, c'est une ville de rebelles, San Francisco de base historiquement, mais voilà. Mais c'est vrai que les taxis.
Mais c'est vrai que c'est une attaque contre tous les symboles effectivement. Mais c'est vrai que les évolutions technologiques vont tellement vite aussi que on peut comprendre qu'il y a des gens qui se sentent un peu dépassés aussi, tu vois.
C'est clair.
Mais je trouve ça drôle quand même, le coup du savoir qu'une avancée technologique peut être arrêtée par un plot de chantier. Moi, ça me fait rire.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même.
Les gars, ils ont
creusé des trucs et tout, la voiture coûte une fortune.
Ils l'ont pas vu venir.
Tu mets un plomb sur le coffre et la voiture s'arrête. C'est drôle. Mélinda, on va terminer avec toi parce que tu es venue avec un petit joujou.
J'essaie de vous l'activer, mais comme.
Qui vient d'arriver.
Ouais.
Voilà.
C'est le Nothing Fun 2.
Yes.
Le retour de la vengeance. Nothing, ça vous dit, à mon avis, rien, c'est le cas de le dire, pour beaucoup de nos auditeurs. Désolé, c'était facile. Derrière, on trouve en fait les anciens de OnePlus. Ceux qui avaient créé OnePlus en 2013, donc Carl Pei notamment. Qui était une des figures très, très en avant de OnePlus.
Oui, personne n'a été très respecté, qui a ses fans, hein, c'est rigolo ce gars-là.
Oui.
OnePlus, c'était, vous savez, ils avaient une stratégie en ligne, donc ils communiquaient énormément en ligne. Pour avoir les premiers OnePlus, à l'époque, il fallait avoir reçu une invitation pour avoir le droit
d'en commander. Tout le monde s'arrachait ses invites, c'était un truc de fou.
Mais c'était des très bons téléphones à 350 euros. Là, je vous le dis tout de suite, on est beaucoup plus. Mais ils ont gardé en fait cette volonté. Carl Pei a toujours dit, je veux faire en fait un iPhone sous Android. Alors le design, il y a aucun doute possible.
C'est vrai, ça ressemble vraiment.
Il faut le décrire quand même.
Alors,
pour ceux qui ne voient pas, c'est
un iPhone avec deux capteurs.
La tranche
ressemble vraiment à l'iPhone. C'est-à-dire que tu le vois de profil.
C'est un iPhone, mais en fait, il y a une logique derrière Nothing, c'est que depuis le début, ils ont commencé par faire des écouteurs. Il faut le rappeler.
Oui, c'est
un fan d'audio.
Transparent.
C'est un fan d'audio, Carl Pei, et il voulait absolument faire des écouteurs chez OnePlus. Ça n'a pas marché super. Il monte sa nouvelle société, donc Nothing, en 2020. Premier axe, le son. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a dans ses investisseurs Tony Fadell, le papa
de l'iPod,
Teenage Engineering, qui est pareil, une entreprise suédoise tournée vers le son, Google Venture, enfin il a des gros actionnaires derrière lui, le patron de Reddit, le patron de Twitch, pour monter quelque chose qui va vers le son avec un message, la transparence. Les écouteurs sont transparents. Le boîtier est transparent.
Je les adore, moi.
Ils sont super bons. Le son est excellent.
Et puis, ils sont très, très beaux parce que tu vois à l'intérieur les composants électroniques.
Mais c'est vraiment super bon.
Mais sur celui-ci aussi, et c'est drôle parce que, honnêtement, il n'y a aucun intérêt à le voir. On est d'accord. Alors, eux, si sur le smartphone, il y en a un peu plus puisqu'ils ont au dos ce qu'ils appellent l'interface Glyph. Alors, pour ceux qui verront les images, c'est pour que vous n'ayez pas le nez tout le temps sur votre écran. C'est-à-dire que si vous posez votre smartphone, l'écran sur la table, si vous avez des notifications importantes qui arrivent, ça va faire des LED qui s'allument. Sur cette deuxième version, en plus, c'est encore plus segmenté. Donc, c'est un contact important vous appelle, c'est une LED. Une notification parce que vous avez votre commande qui doit arriver, ben vous pouvez suivre, c'est très drôle. Vous faites une commande Deliveroo, Uber Eats, n'importe. En fait, vous avez l'avancée, la progression du livreur selon la LED, si elle est plus ou moins complète. Pareil, si vous avez un minuteur, mettez un minuteur sur 3 minutes. Ben voilà, ils ont joué là-dessus.
D'accord.
Parce qu'ils veulent être, mais ça, c'était déjà chez OnePlus. Hein. Ils veulent vraiment que vous détachiez votre smartphone. Ça doit être une aide, mais pas forcément le nez tout le temps dessus.
Mélinda, mais juste après, au niveau hardware, etc., on est dans les standards dans aujourd'hui de la technologie, appareil photo, écran, etc.
On est sur du haut de gamme. Alors, on n'est pas au niveau des iPhones, du Samsung Galaxy S23, et des choses comme ça.
C'est Pixel.
On est sur du Pixel Plus, parce qu'on a quand même un Snapdragon 8 Plus Gen 1 dedans.
D'accord.
Donc, c'est quand même pas...
Un flagship killer, comme on
voilà, c'est ça. Un flagship killer.
Le flagship killer.
Mais c'est vraiment une philosophie. Vous voyez, par exemple, si vous voyez là sur le truc, si vous l'avez en main, l'interface peut passer en monochrome. C'est pour ne pas être perturbé par le fait qu'on ait des icônes avec des couleurs dans tous les sens.
Ça, tu peux le faire sur tous les téléphones.
Ah ben maintenant, monochrome, pas complètement. Et tu peux effacer le nom des apps.
Je l'ai sur mon
Android. Peux le mettre sur le... Alors sur Android, ouais. C'est possible parce qu'il y a aussi cette
inspiration. Tu te mets en mode coucher, t'es en noir et blanc.
Ah oui, mais là c'est en permanence.
Oui,
toi, tu peux laisser en permanence.
Ah oui, tu peux laisser en permanence, bien sûr.
Mais, ouais, mais ils vont sur cette idée de se détacher et d'aller à l'essentiel. C'est un très bon appareil photo. Franchement, c'est un téléphone qui vaut le coup. On est sur autour de 700 euros. Donc, vous voyez, on est quand même sur de 700-800 euros. On arrive quand même sur du haut de gamme. Mais la philosophie est bonne. L'appareil est très bon. Ah ben voilà, tu vois, tu passes un peu comme ça.
Ouais.
Et eux, pareil. Et tu peux...
Ça marche très bien, effectivement.
Et ça marche très bien pour se détacher. Les widgets, on peut mettre un max de widgets. Alors, pour ceux qui ont Android ou iPhone, pour aller à l'essentiel, c'est ça.
Ça sort quand et à quel prix?
Alors, ça sort à la fin du mois. Je te redonne les prix bien parce que je ne les ai plus en tête. On est autour de 700 euros. Il y a trois versions.
D'accord.
228 à 512 gigas en noir ou en blanc.
Après, il faut voir la qualité de l'appareil photo.
Fin du mois, 21 juillet. L'appareil photo, moi, j'ai commencé à faire quelques photos. Franchement, c'est
ça
pas mal.
Ça a l'air pas mal.
Oui.
D'accord.
Mais
il y a deux capteurs. Hein.
C'est deux de 50 au dos. Mais voilà, l'intérêt, c'est cette interface.
Oui.
C'est vraiment la philosophie du produit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est saturé de smartphones.
Bien sûr, oui.
Il y a beaucoup de smartphones à tous les prix.
Il faut essayer de trouver quelque chose.
Là où ils sont très malins, c'est sur le design. Parce que justement, ça leur permet de se différencier. Quand il y a le discours marketing derrière et tout, et c'est vrai, mais je trouve que c'est vrai. Voilà, tu es dans le métro avec ton Nothing Phone. Les gens, ils disent, ah, mais c'est quoi ce téléphone et tout, je connais pas, il est bizarre et tout.
Ça change un peu, quoi.
Ça change.
Mais non, mais ça change.
Ça change.
Alors, attends, j'essaye de vous donner les prix exacts parce que je les ai pas tous en tête, parce qu'il y a trois versions.
650, non.
Donc, on commence à 679. Donc, pour la version qui est en 128 gigas de stockage et 8 gigas de RAM, et on va jusqu'à 849. Donc,
ouais,
on est vraiment
donné,
sur l'entrée du haut de gamme, du très haut de gamme, mais c'est un appareil qui vaut le coup d'œil.
Allez, mais ben voilà, le Nothing Phone, c'est rigolo comme nom.
Ouais.
Le 2, voilà. En plus.
Le 2. Et vous avez tous les écouteurs, toute la gamme d'écouteurs aussi qui est pas mal. J'essaye de mettre des jolies LED, mais ça marche. on a très peu de réseau ici, donc j'ai très peu d'amis qui m'envoient des messages.
On l'a vu, on a une.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda.
Ben écoute, c'est un plaisir.
Et on te retrouve très vite pour multijoueur. Tu vas prendre ma place dans quelques minutes. Et merci Anthony.
Merci
évidemment.
François, merci à tous.
Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier De quoi je me mêle de la saison.
Bah moi, je serai déjà en vacances. Hein.
Tu seras déjà en vacances.
Ah bah bravo.
Je pars demain.
Ah bah bravo.
Bah t'as bien de la chance.
Voilà.
Et on se retrouvera à la rentrée,
on
Anthony, avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. Encore une fois, bonnes vacances à tous, mais restez là puisque De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, on va remonter le temps. Rappelez-vous, l'été 2016, on était tous en train de chercher partout, dans des fourrés, dans des restos, des trucs, des Pokémon. C'était Pokémon Go. Christophe Joly va nous raconter cette histoire étonnante dans un instant. Ça sera la deuxième partie de De quoi je me mêle. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, merci de nous suivre. Allez, on va se plonger tout de suite dans l'été 2016 avec une application qui avait complètement bouleversé le monde entier. Rappelez-vous, été 2016, on était tous avec notre smartphone en train de chercher des Pokémon un peu partout dans des endroits parfois incongrus. C'était Pokémon Go et on va revenir sur cette incroyable aventure high-tech avec Christophe Joly. Salut Christophe.
Salut François.
C'est notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. Alors, avant de rentrer dans le dur de cette histoire-là, parce que c'était fou quand même, hein, ce Pokémon Go, rappel du contexte high-tech, on est en 2016, Christophe.
Il s'est passé plein de choses en 2016. C'est juste incroyable. C'était le lancement des casques de réalité virtuelle Sony PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive. La même année, tous les
c'est
trois.
Dingue, hein.
Le retrait du Galaxy Note dont on a parlé dans un épisode précédent, qui avait une propension à brûler, voire à exploser parfois, en faisant ses problèmes
ça,
de batterie.
C'était un sacré coup dur pour Samsung à l'époque.
Ouais, c'était un sacré coup dur qui avait coûté très très cher. C'était le lancement de la première enceinte Google Home, l'enceinte connectée, sachant qu'Amazon a lancé la sienne 2 ans plus tard. Donc Google avait été assez précurseur en la matière. C'est l'arrêt des magnétoscopes. Arrêt de la fabrication des magnétoscopes.
2016.
Ces choses-là. L'arrêt de la télé 3D. Par Philips, Samsung et LG. La télé 3D n'a jamais vraiment marché.
Ça, il était
active,
temps.
Passive.
Il était temps.
Les dinosaures ne sont jamais rentrés dans le salon.
C'est vrai.
C'est l'arrêt du robot conversationnel, je ne sais pas si tu en rappelles, de Microsoft, qui s'appelait Tai, qui était intégré à Twitter. C'était le début de l'intelligence artificielle. Il avait été détourné par certains utilisateurs. Il lui faisait tenir des propos racistes et néo-nazis.
Misogyne.
Il a été retiré en 24 heures.
Oui, ça avait été une très très mauvaise image pour Microsoft à l'époque, qui essayait malgré tout de... Voilà, c'était l'époque de Cortana aussi. Je ne sais pas si vous souvenez cet assistant vocal.
On parle beaucoup d'IA aujourd'hui.
L'IA, l'incursion dans l'IA date de
2016
quand même.
Et c'était l'ouverture en 2016 du premier magasin Amazon Go sans caisse. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce lancement.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup parlé, on en parle moins aujourd'hui. Ça existe toujours.
Ça existe toujours.
Voilà,
hein.
Ça existe toujours. Même
si Amazon en a fermé quelques-uns, je crois d'ailleurs.
Mais c'était aussi 2016 et ça semble relativement loin désormais quand même.
Et alors donc, en 2016, Niantic, en fait la boîte qui a développé ce jeu, avec Pokémon Go.
Avec Pokémon Go, Niantic était une filiale de Google à l'époque. Et en fait, Pokémon Go n'est pas tout à fait le premier jeu de réalité augmentée, puisque cette fameuse boîte américaine, Niantic Labs, a fait une première incursion avec Ingress, qui était un jeu basé sur la géolocalisation aussi. Ça avait été lancé en novembre 2012. Donc, à l'époque, c'était une filiale de Google. Est-ce que tu te rappelles d'un poisson d'avril, du 1er avril, comme souvent tous les poissons, de 2014 ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est justement, c'est Nintendo et Google qui avaient lancé un poisson d'avril, mais peut-être que cela n'était pas un, selon lequel ils avaient posté une vidéo sur YouTube avec un gars en train de chasser des Pokémon en milieu naturel, en réel en fait. Et ça a fait quasi 20 millions de vues en un temps record, ça a fait une espèce d'événement. Sauf que Niantic est sorti du giron de Google un an après. Et Nintendo a investi dans Niantic à hauteur de 32% du capital, ils ont mis 20 millions d'euros, oui. 20 millions de dollars pour développer Pokémon Go. 2 ans plus tard, le lancement de Pokémon Go était effectif.
C'est
en juillet 2016.
Intéressant parce que 1er avril 2014, je pense qu'ils ont dû poster cette vidéo pour faire le buzz et ils ont vu que ça marchait tellement fort qu'ils se sont dit on va sortir une appli parce que franchement, la technologie était prête. Hein, sur les smartphones, on pouvait avoir de la réalité augmentée.
Mais c'est vrai que peut-être c'était malin de faire ça le 1er avril, comme ça, si jamais ça ne marchait pas, il n'y avait pas d'écho, c'était juste une blague.
Voilà, effectivement.
Et en fait, c'était un carton. Ils ont fait quelques tests en bêta pendant le courant du printemps 2016. Ça a été déployé dans le monde en juillet, à peu près dans tous les pays du monde. En France, ça a été lancé le 24 juillet. Ça devait être lancé le 15 juillet initialement. Hélas, tu le sais, se sont produits les attentats de Nice.
Et, oui.
Et ils ont décidé de décaler le lancement, eu égard au respect... aux victimes, hein, pour contexte. Hein.
Mais bien sûr. C'était pas le moment de lancer une appli de ce type-là.
C'est un phénomène. C'est un véritable phénomène puisqu'il est lancé simultanément dans d'assez nombreux pays. La semaine du lancement de Pokémon Go, l'action de Nintendo flambe de 93% à Tokyo.
Incroyable. Et c'était l'une des premières incursions de Nintendo sur le mobile, rappelez-vous.
C'est ça.
Nintendo était très... très, très, très en retrait, en fait, hein, du téléphone portable, du smartphone. Hein, ils avaient leur console portable. Il y avait très peu d'applications où on pouvait avoir des jeux Nintendo. Et là, c'était le début d'une longue histoire, puisqu'après, Mario Kart est arrivé, etc.
Voilà.
etc.
Et Pokémon Go est le début d'une longue histoire, on en parlera tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 48 heures, 5% des téléphones Android aux États-Unis avaient
téléchargé Pokémon Go.
C'est quand même révélateur. À l'échelle du marché américain,
c'est incroyable.
C'est juste phénoménal. Je vais donner quelques chiffres qui donnent un peu le tournis. Le 2 août 2016, donc un mois après le lancement, ils franchissent la barre des 100 millions de téléchargements. Et Pokémon Go rapporte 10 millions de dollars par jour. Le 10 août 2016, le livre Guinness des records qui fait référence, selon ce Guinness... Pokémon Go a battu le record du nombre de téléchargements en un mois sur un jeu mobile avec 130 millions de téléchargements. Record de revenus générés en un mois, 200 millions de dollars.
Incroyable.
C'est vraiment conséquent. Mmh. Record du jeu téléchargé dans 70 pays simultanément. 70 pays, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même fou. Moi, je me rappelle de juillet 2016 parce qu'on était ensemble.
Oui.
Et on jouait un peu. Moi, je découvrais le truc.
On était en Corse.
On était en Corse.
Ouais, en effet.
Et à l'époque, je faisais De quoi je me mêle avec toi, donc
ouais.
on traitait ces sujets-là.
Oui, oui, oui. Et on se retrouvait sur la plage à chasser les Pokémon.
Et le phénomène est tel que Twitter, Tinder et Facebook en ont fait les frais, en fait. Parce qu'évidemment, pendant que vous chassez des Pokémon, vous chassez moins.
Mais on chassait moins autre chose.
Voilà, on chassait moins autre chose.
C'est incroyable quand même. Hein. Ça a été vraiment une folie
C'était même...
assez passagère, mine de rien.
Bah, tu vas voir, oui. Parce l'effet d'un soufflet. Mais le 7 septembre 2016, ils ont franchi le cap des 500 millions de téléchargements dans plus de 100 pays.
Wow.
Il y a 5 pays qui ont résisté dans un premier temps, c'est la Chine et la Corée du Sud.
Qui au début n'autorisaient pas le téléchargement
non.
du jeu.
La Chine parce que c'est Google qui était derrière ça, et parce que ça fonctionne avec Google Maps. La Corée du Sud pour des questions sécuritaires par rapport à Maps et par rapport à la Corée du Nord. Le problème venait de là. Les trois autres pays, c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. La Corée du Nord, on comprend assez facilement.
Pourquoi, hein, bien sûr.
Et l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était pour des questions religieuses. Voilà, selon eux, ce n'est pas conforme en termes de religion par rapport à l'islam. La promesse du produit, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Pokémon Go, ça consiste en quoi ? Rappelle-toi.
En fait, c'était de pouvoir chasser des Pokémon qui étaient dans la vraie vie, quoi.
C'est ça. En fait, c'était la réalité augmentée. Donc, tu avais ton téléphone, tu marchais dans la rue et tu avais un Pokémon qui
d'un coup apparaissait.
Voilà. Tu avais trois niveaux de difficulté, du vert, du orange, du rouge. Moi, je n'ai jamais été très doué sur le rouge, pour le coup. Vert, ça va. Orange, ça va encore à peu près. Et en fait, il fallait vraiment se déplacer. Donc, c'était une incitation à la marche. C'était le premier jeu vidéo qui te faisait sortir ton canapé.
Ça, c'est top quand même.
Si tu restais dans ton salon, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait des combats à mener. Et donc, tu étais dans des arènes et tu pouvais combattre d'autres joueurs. Et il y avait des Pokéstops, si tu te souviens. C'était des endroits où tu pouvais récupérer des Pokémon dans des lieux touristiques. Et donc, c'était aussi finalement une occasion de découvrir de nouveaux lieux, sachant qu'il pouvait y avoir des effets de masse. Le Sénat a interdit à Nintendo de déployer des Pokémon dans les jardins du Sénat, craignant des attroupements. Parce que quand il y avait des Pokémon rares,
Les gens se précipitaient.
C'était fou. C'était incroyable. Ils avaient sorti un bracelet Pokémon qui te permettait d'avoir une information sur la proximité d'un Pokémon. Donc ça vibrait. Donc ça pouvait vibrer relativement beaucoup. Le problème, c'est que ça engendrait des comportements dangereux. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a des gens qui jouaient à Pokémon Go au volant.
Ouais.
Parce qu'il y avait des Pokémon sur l'autoroute parfois.
Ouais.
À New York, il y avait des Pokémon sur les voies du métro. Donc le transporteur du métro new-yorkais incitait les gens à ne pas aller sur les voies pour attraper le Pokémon. C'était quand même c'est démentiel. En France, la gendarmerie avait tweeté « Conseil pour les dresseurs Pokémon, conducteurs, ne jouez pas à Pokémon Go, piétons, redoublez d'attention. » Et là, c'était le début de ce qu'on appelle les smobies, tu sais, les zombies smartphones. C'est là où les gens étaient sur leur téléphone.
Tout à fait. Ils ne regardaient plus leur environnement, étaient tellement concentrés sur leur appli qu'ils pouvaient se faire écraser.
Ils pouvaient se mettre en danger eux-mêmes. Aux États-Unis, sur les panneaux d'autoroute, il était écrit « Ne joue pas au Pokémon et conduis ». Et il y a eu quelques accidents, il y a des gens qui se sont blessés quand même, ajoutés au phénomène de masse. En France, on était dans un contexte terroriste quand même, et c'était un point de vigilance parce que le contexte sécuritaire n'était quand même pas top. Il y a des lieux qu'on demandait à être déréférencés, on comprend facilement, notamment le camp d'Auschwitz.
Oui, bien sûr, c'est vrai que chasser des Pokémon...
Ce serait quand même assez incongru, assez déplacé, on va dire. La ville d'Hiroshima et le village de Pressol en France, le maire a signé un arrêté municipal pour interdire Pokémon. C'est un village d'un peu moins de 200 habitants.
Oui.
Il ne voulait pas de Pokémon dans son village.
Non, voilà. Et donc, il a réussi.
Voilà. Alors, tu le disais tout à l'heure, ça a dégringolé assez vite.
Donc, était 2016, la folie. On était tous là-dedans. C'était incroyable. Moi, je me souviens même, on était en Corse, à Ajaccio, mais il y avait des attroupements. C'est dingue, la puissance. C'était sans doute l'une des premières applications sur smartphone qui a suscité autant d'intérêt aussi rapidement.
Et qui permettait de se parler les uns les autres.
Oui,
en fait.
C'est vrai.
On ne jouait pas seul.
Ça crée du lien.
Ça crée du lien. Et les gens, et c'est une vraie communauté. Puis il y a quand même la communauté Pokémon derrière ça, qui était un jeu assez historique. Mais en 2 mois, ils ont perdu 50% de leurs joueurs. Et au terme de l'année, ils ont perdu 84% de leurs joueurs du mois de juillet. Donc c'était quand même une dégringolade.
C'est-à-dire que c'est arrivé au bon moment. C'était le début de l'été. Donc tout le monde a pu profiter, parce que tout le monde était en vacances finalement,
se baladait, c'est mieux qu'en hiver sous la neige.
Voilà, c'est ça que, tu vois, la rentrée où on a d'autres choses à fouetter. Quoi.
Et en fait, c'est ce qui est relevé après, c'est qu'il y a une forme de lassitude en fait. Soit il y avait des combats trop difficiles et les gens n'arrivaient pas, tout bêtement, soit c'est une forme de lassitude. À un moment donné, on peut être lassé Mais d'ailleurs, j'ai repris les commentaires de l'époque. Hein. J'ai regardé ce qu'avait dit jeuxvideo.com. Ils avaient mis une note de 18 sur 20, donc c'est quand même une très bonne note. Ouais. Ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de Pokémon, que le monde était un terrain de jeu idéal, l'interface agréable et intuitive. Les Pokéstop, ils trouvaient que c'était une bonne idée pour découvrir le patrimoine des villes. Mm-hmm. Le concept était vraiment addictif. Et moi, je m'en rappelle, j'étais un peu accro à ce
Ouais, on était accro.
Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'étais assez accro. Ça faisait bouger. Et le gros avantage, c'est que c'est gratuit, en fait.
Ouais. Tu n'étais pas obligé de payer pour pouvoir jouer pendant des heures.
Alors, tu pouvais payer pour avoir des bonus, pour atteindre des niveaux. Quand
mais si tu ne payais pas, tu pouvais malgré tout prendre
Et moi, je me suis reconnecté récemment, j'ai refait une petite chasse au Pokémon.
Ah ouais.
Ouais.
Ça marche toujours.
Ça marche toujours.
On en parlera
Ce qui est le point faible, c'est les combats jugés brouillons. Et tu dois t'en rappeler, c'est l'impact sur la batterie.
Parce oui, c'est
évidemment,
vrai.
Moi j'ai un iPhone, t'es pas très favorable à la batterie.
C'est vrai que ça pompait énormément la batterie parce que c'était la réalité augmentée, donc ça lançait l'appareil photo, évidemment c'était connecté.
Enfin, et puis t'avais le GPS qui évidemment fonctionnait, donc c'était
très gourmand.
Ça bouffait la batterie. Les utilisateurs, eux, trouvaient, et là il y a vraiment deux écoles, globalement c'était addictif, les graphismes étaient chouettes, la gratuité du jeu, les mises à jour très régulières, c'est là-dessus que repose non pas le succès, mais la persistance de Pokémon, parce que ça existe toujours. Mais le gameplay trop simple, il y avait trop de bugs. Pas assez de bugs en dehors des villes. C'était un jeu citadin.
Ah oui.
Et les gens qui voulaient jouer à la campagne, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai sorti deux commentaires qui attestent du gap, en fait, entre les deux. Copaz, qui disait « Pokémon Go est sorti il y a 5 mois, il y a tout à prouver encore, car niveau contenu et fonctionnalité, c'est très, très limité. » Il avait mis 6 sur 20. En face, j'ai Alchimiste248 qui dit « Pokémon Go est le meilleur jeu sur smartphone que je connaisse et jouer seul est super avec des amis est un régal. » Lui, il avait mis 17 sur 20. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment ceux qui adorent et ceux qui trouvent ça nul, lassant, qui trouvent le gameplay complètement pauvre. Et comme souvent en matière de tech, t'as les pros et les anti. Et là, quand tu regardes les commentaires, il y en a quand même beaucoup sur jeux vidéo, il y en a une centaine. Et les avis sont très tranchés. Globalement, c'est quand même la lassitude. Et on se rend compte que ceux qui sont accro sont accro à Pokémon.
Oui, c'est
et
ça.
À tout l'environnement
Bien
de Pokémon.
Bien sûr, et toute la culture Nintendo derrière tout ça, forcément.
Ça. Et qui est quand même très très puissant.
Et aujourd'hui alors, parce que, c'était 2016, depuis on n'entend presque plus parler de cette appli, finalement, mais elle existe toujours.
Oui, ça existe toujours. Ils font beaucoup de mises à jour. Ils proposent tout le temps il y a 2-3 mises à jour par mois quand même, c'est pas mal. Ils ajoutent de nouveaux personnages, de nouveaux Pokémon. Le jeu a été téléchargé plus d'un milliard de fois depuis son lancement. Il a généré, selon Sensor Tower, $1 milliard de revenus. Et aujourd'hui, il aurait, selon Active Player, près de 80 millions de joueurs actifs. Donc, c'est quand même pas mal.
Ce qui est pas mal.
À l'échelle mondiale, c'est pas énorme, mais en soi, c'est pas mal. Mais Niantic va beaucoup moins bien que par le passé, puisqu'ils ont supprimé au printemps dernier un tiers de leurs effectifs. Ils ont dû se recentrer sur Pokémon Go. Ils ont abandonné quasi tous leurs autres projets. Ils avaient un projet de jeu analogue autour de la NBA, qui était un jeu assez massif,
ambitieux,
et abandonné. Apparemment, ils ont fait les frais de la pandémie. Évidemment, pendant la pandémie, quand on était tous en confinement, on a beaucoup moins attrapé de Pokémon. Et ils ont lancé quelque chose, et là, tout juste, ce mois-ci, aux États-Unis, le Pokémon Go +++. C'est à nouveau un petit capteur à l'image du bracelet qui avait été lancé à l'époque, qui te permet de jouer sans son téléphone. Le truc nouveau, c'est que tu le mets à côté de ton oreiller, et c'est un appareil qui te permet de mesurer la qualité de ton sommeil.
Ah ouais.
Je vois pas trop le rapport.
Ouais, je vois pas trop le rapport.
Mais dans les faits, tu le poses vraiment à côté de ton oreiller, tu le déclenches.
Ça analyse ton sommeil sans doute, tes mouvements la nuit, etc.
Ça doit être ça. Mais je vois pas le rapport entre Pokémon Go, si ce n'est que dans mon esprit, c'est le premier jeu vidéo qui analyse ton sommeil, qui t'incite à dormir ou qui t'invite à dormir. Donc Pokémon Go continue, toujours. Il le développe. Il continue à faire des mises à jour, mais Niantic ayant réduit quand même son périmètre, on peut se poser la question de la survivance, mais Nintendo est toujours derrière, ils sont toujours
Ça existe toujours. Bah écoutez, peut-être que ça vous donnera envie de retélécharger l'application.
Je vous invite à le faire. Toi, François, tu viens en vacances, je t'invite à retourner à la chasse aux Pokémon.
Oui, parce qu'en plus, la technologie a évolué. C'est vrai que les iPhones ont beaucoup progressé en termes de puissance, etc., d'optimisation de batterie, donc à voir, peut-être que c'est toujours intéressant.
Et c'est intéressant de voir en 2 mois de temps, on a vraiment parlé de phénomène, on en connaît assez rarement en matière de tech. Et tout le monde en parlait, en fait. Tout le monde en parlait parce qu'on jouait avec, mais aussi parce qu'il y avait des comportements quand même de dingo. Quand on voyait les gens au volant en train d'attraper les Pokémon, Ça faisait peur.
Ouais. Et puis tous les médias s'étaient emparés de ce truc-là. Donc c'est vrai que ça...
Pour l'été, c'était un excellent sujet.
Exactement.
Il y a un peu moins
d'actu. Ça faisait boule de neige.
C'était parfait.
Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, on parle beaucoup de masques, de lunettes, etc. Est-ce que ce type de jeu pourra trouver une seconde vie lorsqu'on aura peut-être des lunettes de réalité augmentée où on pourra voir afficher les Pokémon comme ça. Peut-être qu'il y en aura un à côté de toi quand on sera sur le plateau de quoi je me mêle. Ça pourrait être rigolo. Merci pour cette belle histoire.
Merci beaucoup.
C'est vrai que c'est dingue comme le temps passe vite. Ça fait 7 ans.
Ouais.
Incroyable.
C'est long et court à la fois, en fait.
Ouais.
Ça me semble loin et pas tant que ça.
Pokémon Go. Merci beaucoup, Christophe
Merci.
Joly.
Bel été.
Bel été à toi. Avec chasse en Pokémon.
Voilà. À bientôt.
Christophe qui, de temps en temps, rouvre comme ça les vieilles encyclopédies de la tech pour se replonger sur des moments qu'on a tous vécu, finalement. Et c'est un vrai plaisir. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci encore une fois de nous avoir suivis, les amis. On sera là pour la dernière de la saison la semaine prochaine. D'ici là, encore une fois, et j'insiste, profitez bien de vos vacances. D'ici là, la semaine prochaine. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.